Vous écoutez RTL.
Plongée dans la jungle indonésienne que l'on vous propose vers 14h30 sur RTL. On part à la rencontre des gibbons, vous savez, ces grands singes qui sont menacés par la déforestation. Shani, notre invité, a un destin incroyable. C'est celui d'un gamin du Var, devenu un primatologue réputé. Et ça, c'est dans le monde entier, Thomas.
Mais oui, tout de suite, dans la curiosité, Anaïs, on s'envoie en l'air. Allez.
La curiosité est un vilain défaut.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
L'espace. L'ultime frontière.
Je sais que ce jour-là, j'ai réalisé le rêve de beaucoup d'entre nous. J'ai fait un voyage dans l'espace.
Thomas Hugues.
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'espace.
Anaïs Bouton sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Anaïs.
Bonjour Thomas.
Bienvenue dans votre cabinet de curiosité sur RTL. On se passionne comme vous pour les destins incroyables, la nature, les animaux, les petits et les grands secrets qui font l'histoire et donc les grands voyages.
Et oui, aujourd'hui justement un grand voyage en route pour la Lune, c'est l'aventure la plus extraordinaire de tous les temps, on peut dire ça, hein. 50 ans après cet exploit, la Lune est redevenue une étape incontournable, avant peut-être un vol habité pour Mars, qui sait. Américains, Européens, Russes et Chinois, tous veulent y retourner prochainement. Avec le géologue et planétologue Charles Frankel, on revient aujourd'hui sur l'incroyable épopée Apollo. Bonjour Monsieur Frankel.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour Thomas.
Alors, est-ce qu'elle sert encore de référence, cette expérience Apollo ?
Ah oui, on n'a jamais fait mieux, en particulier en termes de fascination pour le public, pour les jeunes, pour la motivation que ça a créé dans les années 60. La technologie sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui, que ce soit les télécoms, la météo, tout ça, c'est les jeunes de l'époque qui sont devenus des ingénieurs et des chercheurs. Et c'est ça, en fait, l'héritage le plus incroyable des vols Apollo. C'est que ça a boosté l'intérêt du public pour les sciences et la technologie.
Les missions Apollo, ça a duré combien de temps ?
Alors, c'est tellement bref, ça n'a duré que 3 ans. La première mission qui se pose sur la Lune, donc c'est Apollo 11 en juillet 69. La dernière, c'est en décembre 72 avec Apollo 17. Il ne s'est écoulé que 3 ans.
Et donc Apollo, ça commence à Apollo 1. Donc oui. Ça démarre combien de temps avant ça ?
Alors Apollo 1, c'était en 67, mais là ça a été une tragédie. Et ensuite, les chiffres intermédiaires 2, 3, 4, 5, 6, c'est uniquement des vaisseaux non pilotés où on teste 100 personnes à bord. Mm-hmm. Et les équipages réellement commencent à voler à partir d'Apollo 7. Et ça, c'est en octobre 68.
On commence par Apollo 1. Peut-être pour être cohérent, vous dites c'est une tragédie. Ça veut dire quoi ? D'abord, il faut peut-être rappeler le contexte international. C'est la guerre froide, c'est la course à l'espace.
Tout à fait. Tout le monde veut... Les Américains, à travers John Kennedy, ont lancé un défi aux Russes parce que les Américains avaient été battus systématiquement dans la course dans l'espace. Le Sputnik, ça avait été russe. Gagarine était russe. Et là, donc...
Ils étaient humiliés, en quelque sorte.
Ah oui, complètement. C'était le communisme qui marchait mieux que le capitalisme. Il fallait absolument redresser la barre. Et donc, ils mettent ce défi en place en disant « On sera sur la Lune avant la fin de la décennie ». Kennedy annonce ça en 61. Ça veut dire qu'en moins de 9 ans, ils vont poser des hommes sur la Lune. Tout reste à faire. À l'époque où il fait cette déclaration, les États-Unis n'ont même pas encore envoyé un homme en orbite terrestre. Les cabines restent à fabriquer. Tout reste à faire.
Et donc là, c'est le drame. Qu'est-ce qui se passe avec Apollo 1 ?
Alors Apollo 1, tout le monde se dépêche pour... on avait déjà fait des vols avant, Mercury, Gemini. Là, Apollo, c'est une nouvelle cabine. C'est celle qui doit aller vers la Lune. C'est un triplace. C'est très complexe. On fait des essais au sol. Le premier équipage est à bord de la fusée pour une répétition de compte à rebours, il n'y a même pas de carburant à bord de la fusée, donc il n'y a aucun danger. Et là, court-circuit, le feu se déclare à bord.
Non mais attendez, ils sont en l'air ?
Non, ils sont au sol. Ils sont au sol, sur la plateforme de tir. Le véritable lancement doit avoir lieu, on est là le 27 janvier 1967. Le vrai lancement doit avoir lieu un mois plus tard. Ils sont au sol, donc à un mois de l'échéance, à essayer de déverminer la cabine parce qu'il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes de télécom, ne serait-ce qu'avec le bunker à 100 mètres de là. Ils disent, si on n'est même pas capable de communiquer avec le bunker, comment est-ce que vous voulez qu'on aille vers la Lune ? Ils commencent à s'énerver à bord et, donc, et soudain le drame.
Court-circuit. Ça veut dire quoi ? Ils vont prendre feu ?
Oui, ils vont prendre feu. Parce que le grand problème, c'est que la cabine Apollo, c'est une erreur de conception. Enfin, il y a eu plein d'erreurs. Une grande erreur, c'était qu'elle était mise sous pression d'oxygène pur à très haute pression sur le pas de tir. Et à ce moment-là, les astronautes respirent dans cette atmosphère d'oxygène. Et quand vous avez un court-circuit dans l'oxygène, tout brûle. Tout brûle, y compris, enfin, alors il y a eu du velcro partout, ça s'est enflammé, et donc en 15 secondes, ils sont morts. Et ils essayent de déverrouiller l'écoutille pour sortir, mais on pensait que le danger ne pouvait venir que de l'extérieur dans l'espace, pas de l'intérieur. Donc on faisait en sorte que l'écoutille soit, qu'on puisse pas l'ouvrir par accident. Donc ça prenait 2 minutes à déverrouiller une écoutille. Donc en 15 secondes, ils étaient fichus.
Alors comment on est passé de ce drame, de cet échec technologique qui a marqué l'opinion américaine au succès de juillet 69, c'est ce qu'on va raconter dans un instant avec vous, Charles Frankel, à l'occasion, pourquoi on parle de ça, à l'occasion de la sortie d'un film qu'on attend beaucoup, First Man, signé Damien Chazelle, qui sort mercredi
prochain.
Et qu'on
ira voir avec vous,
j'espère,
Charles.
Bien.
RTL.
Jusqu'à 15h.
Nous sommes en train de mettre au point une fusée à propulsion atomique.
Une fusée ? Mais pourquoi faire ?
Pour aller sur la Lune, bien sûr.
La curiosité est un vilain défaut.
Et vous comptez emmener des passagers ?
Mais naturellement, pourquoi croyez-vous que je vous ai demandé de venir ?
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Nous avons envoyé une fusée vers la Lune.
J'ai besoin de la Lune pour lui parler.
Ils ont été les premiers sur la Lune. Ils sont donc logiquement sur la première radio de France. De retour dans votre cabinet de curiosité avec le planétologue Charles Frankel. On découvre comment ils ont décroché la Lune. C'est le titre de votre livre publié chez Dunod. Alors, on vient de parler de cette aventure tragique d'Apollo 1. Alors, ils ont dû tout revoir. Est-ce que c'est pas ça qui a fait qu'ils ont, quelques années après, réussi à poser le pied sur la Lune ?
Oui, ça a été un électrochoc. Toute l'industrie américaine s'est mise derrière la NASA pour corriger le tir. Un astronaute, plusieurs astronautes se sont mis au travail dans les décombres de cette cabine. Alors c'est une cabine qui fait tronc conique où on peut loger 3 hommes, c'est la cabine Apollo. Tout est évidemment cramé là à l'intérieur. Il commence à recenser tous les problèmes. Le problème de l'écoutille qui s'ouvre trop vite, le problème de l'oxygène pure à haute pression, à ne pas répéter, les câbles électriques qui couraient dans tous les sens, qui étaient tordus, ce qui a fait un circuit électrique. S'il n'y avait pas eu ce drame, il y en aurait eu un autre bientôt après, et sans doute dans l'espace, et ça aurait vraiment tout freiné. Le fait que la cabine était au sol quand elle a cramé a permis de l'étudier et de voir tous les problèmes qu'il y avait dedans. Et d'une certaine façon, c'est ça qui a permis aux Américains de rebondir, de reconstruire une meilleure version
et à partir
en un an seulement.
Et à partir de quand ils dépassent les Russes ? Est-ce qu'il y a un moment, parce que nous on se souvient tous de juillet 69, mais est-ce qu'un peu avant, il y a déjà des étapes où on se dit, ça y est, les Américains sont en train de gagner cette bataille ?
Absolument, et c'est un coup de poker de la NASA, c'est Apollo 8. Donc Apollo 7, c'est le premier vol finalement qui réussit de cette cabine, on reste en orbite terrestre, on voit que tout fonctionne. Et les Américains font un pari insensé en décembre 68. Donc nous arrivons au 50e anniversaire dans deux mois. Apollo 8, ils décident, parce qu'ils savent que les Russes vont les battre à nouveau en lançant un équipage autour de la Lune. Ils ne peuvent pas encore se poser, les Russes. Ils n'ont pas encore la fusée, le module pour se poser. Ils essayent de les battre déjà à ce premier stade. Et les Américains, ils sentent le coup venir. Ils avancent leur programme, ce qui est très très risqué en envoyant Apollo 8 qui est à peine testé, la cabine est à peine testée, avec 3 hommes à bord, Borman, Lovell et Anders, qui font le tour de la Lune. On est en décembre, la veille de Noël 68, et là, le monde entier est subjugué, et voilà.
Ils n'étaient pas du tout sûrs de rentrer, d'ailleurs.
Pas du tout. Les astronautes eux-mêmes savaient, dans leur fort intérieur, qu'ils avaient 1 chance sur 3 de mourir pendant le vol. Donc c'était franchement une très haute prise de risque. Dans les couloirs de la NASA, on disait même 1 chance sur 2. Mais tout le monde, c'était la guerre, et la guerre froide. Et donc tout le monde prenait des risques. C'est difficilement imaginable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même attitude. Vous dites une mission, vous avez 1 chance sur 3 de revenir, mais on vous traiterait de fou de ne pas revenir.
Personne prendrait risque. Charles Frankel, ce 20 juillet 69, ça fait partie évidemment de ces dates où, quand on était né, on se souvient de ce qu'on faisait ou de où on était. Alors moi, j'étais trop petit, je n'ai pas regardé ça à la télévision. 20 juillet 69, 600 millions de téléspectateurs, ça représente 1/5 de la population mondiale de l'époque. Comment ils ont sélectionné cet équipage qui est devenu célèbre en une fraction de seconde ?
Eh ben en fait, le mythe urbain, c'est qu'on l'a trié sur le volet, qu'il y a eu des réunions pour dire ça doit être Armstrong parce que c'est un civil, parce que c'est le meilleur pilote, parce que non, pas du tout. Les équipages étaient organisés par un chef d'équipe, le chef des astronautes, un ancien astronaute lui-même, et En fait, sa devise, c'était n'importe quel équipage doit être capable de commander n'importe quel vol. Donc, on crée des équipages et ensuite, vous allez hériter d'un vol Apollo. On ne sait pas lequel, tout dépend. Ensuite, il y a des permutations d'équipage. Il y en a un qui est malade, il faut changer. Donc, c'est la roulette. C'est vraiment la roue qui tourne et la flèche va s'arrêter sur l'équipage Armstrong, Aldrin, Collins, on va dire par hasard. Et en plus, on ne pensait pas qu'ils allaient réussir. On disait Apollo 11, quand on les a sélectionnés, oh, ce n'est pas Apollo 11 qui essaiera de se poser. Il y aura trop de problèmes, ça sera sans doute Apollo 12. Donc en fait, c'est par hasard que c'est tombé sur les noms d'Armstrong, Aldrin et Collins. Et là, ils rentrent dans l'histoire.
RTL.
On salue les astronautes de l'espace.
Voilà.
C'est les astronautes de Bagnolet.
OK.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Overhead windows on Discovery.
Houston, we have a problem.
La curiosité
there you are.
Est un vilain défaut.
Tu vois, ils vont dire comme ça, va chercher le petit clown sur la fusée. Et il va sortir, et bim, il ferme la porte. Et lui, il va...
Non, ils font pas ça, mais ça va pas. Ils font pas ça.
Ah si, ils coupent l'oxygène quand tu fais caca.
Thomas VDB qui revisite le mythe des astronautes. L'aventure Apollo, c'est le titre du livre de notre invité et notre curiosité du jour sur RTL. Nous sommes toujours avec Charles Frankel. Alors, on va pas raconter toute la mission Apollo 11, juillet 69, la phrase historique, etc., etc. Est-ce qu'il y a une anecdote méconnue qui concerne cet immense succès américain? Est-ce que ça a failli foirer d'une certaine
façon? Oui, il y a une anecdote et j'y croyais pas d'ailleurs jusqu'à j'ai épluché tous les dialogues et ça a bien eu lieu effectivement. C'est que Buzz Aldrin, en rentrant de sa marche lunaire et en ôtant son scaphandre encombrant dans le LEM, casse net le bouton du tableau de bord, l'interrupteur, pour redécoller de la Lune. Et donc, il dit ça à Houston de façon très évasive. Houston, est-ce que vous pourriez me dire sur la télémétrie quel est l'état de l'interrupteur bidule? Parce qu'il me semblerait que j'ai coupé le... Alors, je ne sais pas si on peut le remettre. Et Houston lui dit, il est en position fermée, effectivement, le courant passe pas. Il faut que une heure avant le décollage, elle soit mise en position ouverte, trouver un moyen.
Et donc, potentiellement, ils ne peuvent pas redécoller.
Oui, alors, potentiellement, Houston a plein de solutions. Oui. S'il n'avait pas réparé le bouton, ils auraient, à distance, reconfiguré les circuits électriques du LEM pour faire passer le courant par un autre bus.
Et alors, comment
électrique.
Il l'a fait redémarrer?
Avec la pointe de son stylo. Il l'a introduit dans le trou vide de l'interrupteur et il a farfouillé jusqu'à basculer l'interrupteur.
Alors ça, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour les stylos à bic. Mais alors, autre phrase culte qu'on a entendue, c'est « Houston, we have a problem ».
Hein, très bel accent, franchement,
accent.
Bravo. Le
film Apollo 13 avec Tom Hanks, qui est assez juste.
Totalement juste.
Alors, que se passe-t-il ce 14 avril?
Eh bien, ils sont en route pour la Lune, ils ont encore 2 jours de voyage, ils vont, comme leurs prédécesseurs, se poser sur la Lune avec leur module lunaire. Ils sont pour le moment dans la cabine Apollo, et derrière la cabine Apollo, il y a la soute, il y a les réservoirs, il y a le moteur fusée, et il y a un réservoir d'oxygène qui explose. Court-circuit, encore un problème de court-circuit. Et soudain, le vaisseau se met à trembler, la jauge d'électricité commence à tomber vers zéro, et ils se rendent compte que non seulement ils ont un problème et que leur mission va avorter, alors ils sont hyper déçus, mais surtout qu'ils vont peut-être mourir. Parce que sans électricité à bord d'une cabine, vous ne pouvez rien faire. Ni actionner les moteurs fusées, ni respirer, ni fabriquer de l'oxygène, ni, etc.
Dans le film, il y a une gigantesque mission mécano, intello, qui mobilise tous les ingénieurs, toute la NASA. Quoi,
complètement,
pour trouver une solution.
À nouveau, tout le monde
ça
est derrière.
Comme ça, quoi.
Tout le monde est derrière eux, toutes les lumières sont allumées à Houston, jour et nuit, tous les techniciens travaillent, alors que dans la cabine Apollo, au contraire, on éteint tout. C'est extraordinaire. Ils utilisent leur lampe de poche parce qu'ils ne peuvent pas utiliser l'électricité à bord. L'ordinateur, ils doivent débrancher l'ordinateur.
Ah, toujours à cause de ce problème d'oxygène dont vous parliez au début de l'émission.
Alors, oui, à cause de l'explosion du. Parce que l'explosion du réservoir d'oxygène, c'est le réservoir d'oxygène qui procure l'électricité. C'est une pile à combustible où on combine hydrogène et oxygène pour fournir de l'électricité, plutôt qu'avoir des très lourdes batteries ou des panneaux solaires. Et donc, c'est toutes les. Les piles à combustible, parce qu'en explosant, en plus, le réservoir d'oxygène a tout massacré à l'intérieur du module derrière. Quoi. Il y a énormément de choses détruites, y compris sans doute le moteur fusée. Heureusement, ils avaient encore le LEM, c'est-à-dire le module lunaire, puisqu'il ne s'était pas encore posé sur la Lune. Et elle a servi de canot de sauvetage. Ils sont mis dedans pour respirer, pour utiliser l'électricité du LEM.
Alors, c'est la mission Apollo qu'on vient d'évoquer avec vous, qui nous a rapporté les cailloux de la Lune, les plus belles photos. On en met une sur Twitter qui s'appelle la bille bleue, où on voit enfin la Terre. Ça, c'est Apollo, mission Apollo 17.
Ouais.
Merci beaucoup, Charles Frankel, d'être passé dans notre cabinet de
curiosité. On a encore une ou deux questions à vous poser dans un instant. Tiens, notamment, on va voir avec vous, Charles. Vous avez rencontré plusieurs de ces astronautes, c'est ça?
Ah oui. Tout jeune déjà, j'ai croisé Armstrong et Aldrin quand j'avais 13 ans.
Alors gardez ça pour dans deux minutes parce que ça va être passionnant à entendre. Et puis pardon de se contre-ordre. Et puis on va aussi vous raconter l'histoire des gibbons, les grands singes menacés de disparition en Indonésie. À tout de suite les curieux.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Tout ça ne vaut pas. Clair de lune à Maubeuge.
J'ai demandé à la lune.
Houston, on pourrait éteindre la musique.
Kowalski.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Je crois quand même qu'on a perdu notre réalisateur François Touchard parce que faire un mix entre Bourvil et Indochine, c'était osé. Mais c'est très bon pour lancer cette dernière séquence consacrée aux missions Apollo. Qu'est-ce qui nous a donné envie de vous inviter, Charles Frankel? C'est la sortie de ce film de Damien Chazelle, First Man, la semaine prochaine, mercredi prochain. Et puis votre livre, c'est quoi le titre déjà?
L'aventure Apollo. Comment ils ont décroché la Lune.
Voilà, bravo. C'est bien de faire votre auto-promo, ça marche super bien. Non mais surtout dans ce livre, il y a l'histoire de vos rencontres avec certains de ces astronautes. Moi, ça me met des étoiles dans les yeux, c'est le cas de le dire. Par exemple, le vrai Tom Hanks, si j'ose dire.
Oui, James Lovell, le commandant de bord d'Apollo 13. J'ai eu la chance de l'accompagner en France pour un congrès. J'étais un peu son chaperon. Ouais. Et donc, j'avais 22 ans, on a pris le Concorde ensemble pour venir en France. Et on ne sait pas si pendant tout le vol, on est resté debout à trois. James Lovell, sa femme Marilyn et moi-même, à descendre des boissons légèrement alcoolisées. Et,
avec beaucoup de modération,
surtout dans un Concorde. Ouais. Et à parler de choses et d'autres, à refaire le monde. Un homme grande élégance, tout comme son épouse d'ailleurs.
Il avait eu peur?
Un astronaute n'a jamais peur. Et d'ailleurs, quand on regarde les retranscriptions de leur dialogue pendant le vol Apollo 13, ils ne se départent même pas d'un sens de l'humour. C'est extraordinaire. Ils sont d'un calme olympien. D'ailleurs, quand ils sont prêts à mûrir sur Terre et que sans doute les parachutes sont endommagés, ça ils ne le savent même pas. Donc, ils pourraient à la dernière minute mourir. La dernière chose qu'ils font, c'est remercier Houston avant le blackout radio. C'est-à-dire, Houston, nous aimerions d'abord vous dire que nous sommes nous avons beaucoup de gratitude pour tout le travail que vous avez fait pour nous.
C'est classe.
Chapeau.
Ouais. Ça, c'est classe. Merci beaucoup, Charles Frankel, d'être passé. On rappelle donc le titre de votre livre, L'aventure Apollo, comment ils ont décroché la Lune, et c'est aux éditions Duno. Merci.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.